D'abord, le sens étymologique du mot baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme pour le baptême d'eau, le dénominateur commun, c'est baptême. Baptême, ça veut dire immerger, plonger. Donc, dans le baptême dans le Saint-Esprit ou dans le baptême du Saint-Esprit, il y a cette notion d'être plongé dans le Saint-Esprit, d'être immergé dans le Saint-Esprit. De même qu'on plonge quelqu'un dans l'eau, dans le baptisphère, c'est ça ? Et baptistère, merci. De la même manière, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience où on est comme plongé dans le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Comme l'eau, on peut la voir. Mais l'image est la même. On est plongé dans le Saint-Esprit. On est immergé dans le Saint-Esprit. Réalisez aussi que c'est une promesse de Dieu qui a été annoncée déjà sous l'Ancienne Alliance, sous la plume du prophète Joël. Joël 2 dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Joël 2, 28. Et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc ça a été annoncé plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Dans le Nouveau Testament, ça a été annoncé par Jésus lui-même. Et cela après sa résurrection, à plusieurs reprises d'ailleurs. Dans Jean 7, 37, déjà ça, pardon, avant sa résurrection, Jean 7, 37 dit, Jésus dit, « Si quelqu'un, le jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'avait pas encore été répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'était pas mort, il n'était pas encore ressuscité et glorifié. Donc c'est une promesse que Jésus a faite de son vivant. Et ensuite, après sa résurrection, Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc ce que le Père a promis, c'est bien le baptême dans le Saint-Esprit. Acte 1, 8, très peu de temps avant d'être élevé au ciel, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Jean-Baptiste lui-même en parlera dans Matthieu 3. Il dit « Moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau. Mais celui qui viendra après moi, qui est plus grand que moi, eh bien lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Pierre va reprendre justement dans Acte 2 le passage que Joël a cité plusieurs siècles avant, dans Acte 2, 14 à 18. C'est ce qui était dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit, etc. » Il ajoute verset 38-39, « Car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en un si grand nombre que le Seigneur les appellera. » Donc la promesse, elle n'était pas seulement pour les contemporains des apôtres, mais elle était également pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin en un si grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc c'est aussi pour nous, c'est aussi pour toi, cette promesse. Qu'est-ce qui peut tendre à prouver son importance ? Déjà que c'est une promesse qui a été faite et renouvelée à plusieurs reprises. Mais je vois trois choses qu'on peut rajouter. Tout d'abord, la recommandation de Jésus à ses disciples juste avant d'être glorifié. Il leur dit, effectivement, acte 1, versets 4 et 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Donc il leur dit, avant d'aller, de sortir, d'accomplir la mission qu'il leur avait confiée, il leur dit, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse. » Et pourtant, ils étaient sauvés, pleinement sauvés. Mais il leur dit d'attendre. Donc c'était extrêmement important aux yeux du Seigneur Jésus pour accomplir la mission. La deuxième chose, c'est que dans Acte 6, versets 1 à 5, vous savez, pour la désignation des diacres de l'Église primitive, les premiers diacres de l'Église primitive, parce qu'il se trouve que les apôtres étaient dépassés par l'ampleur de l'action de Dieu avec toutes ces convertis, et donc ils ne pouvaient pas être au four et au moulin, on peut le dire, et notamment pour servir aux tables, comptabilité et autres. Il fallait, il leur dit, désigner sept frères, acte 6, verset 1 à 5. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. » Donc ça, c'est le premier critère pour avoir une responsabilité, c'est la base, qui soit, deuxième critère, plein d'Esprit Saint, de sagesse. Et nous nous chargerons de cet emploi. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Les élus, Étienne, entre autres, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc on voit que dans les critères de responsabilité dans l'Église primitive, il y avait bien sûr le bon témoignage, et ça, ça demeure, et ça demeurera toujours. Mais de la même manière, il y avait également cette nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Il fut un temps dans nos assemblées aussi, où on ne confiait pas de responsabilité dans l'Église à quelqu'un qui n'était pas rempli du Saint-Esprit, y compris même pour un service qu'on pourrait entre guillemets qualifier de matériel, parce qu'aux yeux de Dieu, tout est spirituel finalement. Parce que c'est extrêmement important. Et puis, le troisième point, c'est la première question que Paul va poser à des chrétiens quand il les rencontre à Éphèse. Acte 19.2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Première des choses, donc ils ont cru, mais il leur dit « Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Est-ce que c'est le genre de question qu'on pose, nous ? Est-ce que c'est une préoccupation ? Est-ce qu'on en ressent cette nécessité ? Le salut, c'est merveilleux. C'est suffisant, oui, pour être sauvé, de croire au Seigneur Jésus. Mais pour notre mission sur cette terre, nous avons besoin d'être baptisés, d'être remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, as-tu reçu le Saint-Esprit, sous-entendu le baptême dans le Saint-Esprit, quand tu as cru au Seigneur Jésus ? Maintenant, l'utilité du baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'il semble que ce soit important, mais pourquoi finalement ? On peut dire que pour la conversion, le Saint-Esprit vient faire en nous sa demeure, il vient habiter, il vient tabernacler dans le corps du croyant. Ainsi, c'est le besoin de communion qui est satisfait, de communion avec Dieu qui est pleinement satisfait, qui est pleinement rétabli. De Corinthiens 13,13, où il est parlé que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est aussi par la conversion celui de transformation du croyant à la ressemblance de Jésus, qui est en marche, elle n'est pas acquise, mais elle est en marche par la conversion. On peut parler de l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit, qui agit comme une aide, comme un moteur, mais il n'agit pas seul, il agit avec nous, nous sommes ouvriers avec Dieu, il ne fait pas tout seul, il fait avec nous, avec ce qu'on veut bien lui laisser faire. Galates 5,22 nous dit « le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. » De Thessaloniciens 2,13, il parle de la sanctification de l'esprit. Donc ça, c'est au travers de la conversion, ce qui s'opère en nous par l'action du Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit ne répond pas à ces mêmes besoins, il n'a pas vocation à nous rendre parfaits. Il ne remplacera jamais l'obéissance, la croix dont chaque croyant doit se charger chaque jour, la vie de piété quotidienne. Il n'y a pas dans le baptême dans le Saint-Esprit un effet magique instantané qui ferait de nous des gens parfaits d'un coup, définitivement immunisés contre le péché ou contre la tentation. Ce n'est pas biblique, et puis il suffit de regarder à nous-mêmes et de regarder autour de nous, et à l'Église primitive. Attention de ne pas confondre, parfois certains ont pris du recul par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, où l'on peut rechercher, bah, t'as vu un tel ou une telle ou autre, baptisé dans le Saint-Esprit et autres, et puis regarde comment il se comporte. Non, ce sont deux choses différentes. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas vocation à la sanctification, certes, il va y participer, mais ce n'est pas sa vocation première. C'est au travers de la conversion, l'action du Saint-Esprit qui œuvre en nous, cette œuvre de sanctification qui s'opère et qui est glorieuse et merveilleuse. Non, la vocation première du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de communiquer aux croyants une puissance spirituelle. C'est ça la vocation première du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le besoin de puissance qui est satisfait. Tout particulièrement, Matthieu 3, 11, c'est Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est plus puissant que moi. » Donc, il y a cette notion de puissance. Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. » Donc, toujours pareil, cette notion de puissance. Pas pour que nous soyons des tout-puissants, mais cette notion de puissance. Donc c'est dans un but de puissance spirituelle, non pas pour nous gargariser, mais en vue du témoignage dans ce monde, sur cette terre. C'est ça, la vocation première du baptême dans le Saint-Esprit. Acte 1-8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et même jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc un équipement, un revêtement surnaturel en vue d'une mission qui est surnaturelle. Être témoin de Jésus-Christ, vivre en tant que chrétien, pouvoir amener une âme au salut, des âmes au salut, parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, quel défi! On a besoin de cette puissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Simplement, par nous-mêmes ou simplement par le salut seul. Il y a ce témoignage qui est extrêmement important, qui est indispensable, qui rend un bon témoignage, donc c'est basique. Mais pour faire passer, permettre à une âme de passer de la mort à la vie, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut, et chacun pour notre part. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Comme Joël le dit, je répandrai sur vous tous, sur les jeunes, sur les vieux, quelles que soient les conditions sociales, sur chacun. Matthieu 28 dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On a besoin du Seigneur Jésus. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'annonçaient pas avant. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit et qu'on ne vit pas dans la dimension du baptême dans le Saint-Esprit. On verra plus loin qu'il ne faut pas s'arrêter à l'expérience première qu'on a faite. Alors on peut annoncer la parole, mais on manque de puissance. Vous pouvez avoir une hache ou une scie pour scier du bois, mais si elle n'est pas bien acérée, bien tranchante, vous allez faire beaucoup d'efforts. Peut-être vous arriverez avec beaucoup d'efforts, mais vous ne serez pas efficace. Si vous avez beaucoup de branches à scier, vous en ferez une, deux, et puis ça s'arrêtera là. Et le baptême dans le Saint-Esprit va aiguiser notre hache spirituelle, notre témoignage, et le rendre plus percutant, plus puissant. Paul le dit d'ailleurs, dans Romains 15, versets 18 à 20, il parle de la puissance de l'Esprit de Dieu qui agissait au travers de lui, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ensuite, donc, on l'a vu, pour vocation première, communiquer aux croyants une puissance spirituelle en vue du témoignage sur la terre. Deuxièmement. Et puis, également, une capacité à faire face à l'adversité, notamment pour Christ. On va, pour cela, comparer la vie des disciples avant et après leur baptême dans le Saint-Esprit. Avant le baptême dans le Saint-Esprit, au moment de l'arrestation de Jésus, vous vous souvenez ce qu'ils ont fait ? Il est dit, ils l'ont tous abandonné. Tous abandonnés. Matthieu 26, 56. Mais après la mort de Jésus, même après la mort de Jésus, donc avant leur baptême, avant le baptême dans le Saint-Esprit et après la mort de Jésus, cette fois-ci dans Jean 20, 19, Jésus est mort. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont, Jean 20, 19, il est dit, le lieu où ils étaient, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, les portes étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, et c'est là que Jésus s'est présenté à eux. Donc ils étaient fermés. Effectivement, on peut se refermer face à l'adversité. On commence à témoigner, on essaie de vivre notre vie chrétienne. Puis au fur et à mesure, face aux oppositions, à l'adversité, sous différentes formes, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville dans notre coquille. Parce qu'on s'est pris des coups, on a vu des oppositions, on a vu les gens qui ne nous parlaient plus, etc. Et du coup, on commence à se refermer. C'est le réflexe naturel, c'est humain. Même les disciples qui avaient vécu avec Jésus ont fonctionné de cette manière-là. Et ça, c'était avant le baptême dans le Saint-Esprit. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, on peut dire qu'il n'y a pas photo. Acte 4, versets 5 à 8, il est dit donc, après qu'on l'ait arrêté, le Pierre et Jean, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ? La guérison d'un malade. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Donc la première chose, c'est que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va leur dire. Il n'a pas peur de prendre la parole. Et il poursuit, versets 13 à 20. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Quelle assurance face à l'adversité. Premier temps, malgré ses bonnes dispositions, il dit, moi si tous t'abandonnent, moi je te suivrai. Mais face à l'adversité, il est parti comme les autres, tous l'ont abandonné. Mais là, c'est différent. Il prend la parole. Et avec assurance, en plus. Et ces hommes qui étaient là, qui étaient en nombre, ils sont surpris. Ils étaient étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, des gens qu'ils méprisaient. Et ils vont leur interdire de parler au nom de Jésus et d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre va dire, mais jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Tellement ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter de témoigner, malgré les menaces, malgré l'opposition. C'est ça que fait le baptême dans le Saint-Esprit. Plutôt que de nous décourager, de nous maintenir sous les teignoirs, au contraire, il nous propulse, il donne une assurance surnaturelle. Ce n'est pas par notre propre force. Acte 5, 41, il est dit, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils sont sur une autre planète. C'est la planète du baptême dans le Saint-Esprit, tel qu'il est vécu bibliquement. On les voit, ils ressortent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Nous, on viendrait, on dirait, voilà ce qu'on m'a fait, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, priez pour moi, frère, c'est tellement difficile. Eux, ils sont joyeux de participer aux souffrances de Christ. Parce que c'était une promesse, j'ai dit, vous serez mes témoins littéralement, vous serez mes martyrs. Vous serez capable de souffrir pour moi, pour mon nom. Le baptême du Saint-Esprit nous fait rentrer dans une autre dimension, si elle est vécue et entretenue. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance, de l'assurance. Peut-être tu n'as pas d'assurance naturellement, mais peu importe que tu en aies même naturellement, parce que Pierre était quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance. Et comme les autres face à l'adversité, son assurance, elle s'est enfuie. Donc on ne peut pas nous appuyer sur nos forces humaines, quelles qu'elles soient, pour le témoignage de Jésus. On a besoin de la force de Dieu, de la force surnaturelle, et on est tous au même niveau à ce point-là. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Question, peut-on le recevoir sans passer par la nouvelle naissance? Est-ce qu'on peut parler en langue sans être... est-ce qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans être né de nouveau, ou avant d'être né de nouveau? Acte 2, 38. Pierre va dire à cette foule qui est là, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 5, 32. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, à l'obéissance de la foi. peut faire suite le baptême dans le Saint-Esprit. Tous les passages du Nouveau Testament faisant référence au baptême dans le Saint-Esprit montrent que la nouvelle naissance précède toujours le baptême dans le Saint-Esprit, sans exception. Sans exception. C'est scripturaire. Même le réveil de Samarie, vous pourrez lire Acte 8 du verset 12 au verset 16. Ceux qui crurent furent ensuite baptisés d'eau, mais durent attendre la visite des apôtres, de Pierre et de Jean, pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Donc on peut le voir, ce sont deux expériences distinctes. Deux expériences distinctes, mais voir la chronologie par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Le reçoit-on au moment, systématiquement, au moment où on naît de nouveau? Ou s'opère-t-il automatiquement au moment de la nouvelle naissance? Pour résumer, est-ce qu'à partir du moment où on est né de nouveau, on est baptisé dans le Saint-Esprit? Certains le disent, et je ne les critique pas. Mais c'est bon de lire la parole de Dieu et d'essayer de la comprendre ensemble. Certains passages, d'ailleurs, pourraient laisser penser que oui, qu'à partir du moment où on est né de nouveau, eh bien, instantanément, on est en même temps baptisé dans le Saint-Esprit. Paul le dit aux Romains, Romains 8, 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce qui veut dire que, effectivement, quand à partir du moment où on est né de nouveau, le passage nous dit qu'on a l'Esprit de Christ en nous. Donc, on pourrait sous-entendre qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Romains 8, versets 15 et 16, il le dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc tous les chrétiens ont cet esprit qui crie « Abba, Père ». Simplement, là, dans ce passage, il n'est pas parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas du baptême dans le Saint-Esprit dont il est question, mais c'est de la nouvelle naissance. Effectivement, quand, au moment de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient demeurer en nous, vient habiter, tabernacler en nous, c'est la nouvelle naissance. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est donc une expérience distincte et secondaire. C'est important, hein ? Distincte et secondaire. Et même vous qui n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez la personne du Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes pas des demi-chrétiens ou des sous-chrétiens, vous avez la personne du Saint-Esprit en vous. Le baptême dans le Saint-Esprit est simplement une autre expérience que nous avons besoin de vivre parce que c'est une promesse. Donc deux expériences distinctes séparées l'une de l'autre. Un texte simple, c'est Actes 19.2, quand Pierre, on l'a lu tout à l'heure, quand Paul arrive à Éphèse, il voit ce groupe de 12 chrétiens, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils vont répondre « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Voyez ? Donc on peut être né de nouveau et ne pas avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. On verra plus loin que plus tard, effectivement, ils vont expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, baptême dans le Saint-Esprit et baptême d'eau. Il faut d'abord être baptisé d'eau avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Si le baptême dans le Saint-Esprit fait toujours suite à la nouvelle naissance, l'ordre naturel des choses serait qu'ils se reçoivent aussi après l'engagement public, au travers du baptême d'eau, dans la mesure où effectivement on est baptisé dans le Saint-Esprit en vue d'être un témoin. Et dans le baptême d'eau, on prend position pour Jésus. C'est un témoignage public, on prend position pour Jésus. Cependant, la Bible nous montre que même si le plus souvent, ça dépend aussi de la durée, si vous êtes baptisé immédiatement après avoir cru, le baptême dans le Saint-Esprit va venir après, mais s'il y a un certain temps, entre le moment où vous êtes né de nouveau et vous êtes baptisé d'eau, eh bien, dans ce laps de temps, vous pouvez très bien être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est scripturaire. Pierre chez Corneille, c'est l'exemple type, Actes 10, 47. Pierre va dire « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ?» Ils ont été baptisés chez Corneille, ce groupe, dans cette maison, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore été baptisés d'eau. Et Pierre leur dit « Mais est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit ?» Donc tu peux, après être né de nouveau, même si tu n'es pas encore baptisé d'eau, être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu va voir tes dispositions de cœur. Et effectivement, si dans ton cœur tu n'as pas le désir d'être un témoin de Jésus, efficace pour sa cause, il y a peut-être peu de chances que le Seigneur te baptise dans le Saint-Esprit. Mais s'il y a déjà ce bouillonnement, cette aspiration à être un témoin de Jésus, à être efficace pour sa cause, eh bien, le Seigneur peut ne pas attendre que tu sois baptisé d'eau, mais déjà te remplir du Saint-Esprit. Parce que les temps sont courts. Le Seigneur ne veut pas qu'on perde de temps. Comment se reçoit-il ce baptême dans le Saint-Esprit ? Dans la Bible, on voit trois façons, au moins trois façons, la façon de recevoir. C'est d'abord lors de la prière collective, lors de rassemblement d'église, Actes 1, 14 et 2, 1. On le voit par rapport à l'église primitive, ils étaient tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils priaient, ils étaient tous ensemble. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Donc le Saint-Esprit se manifestera de manière toute particulière quand nous sommes rassemblés, quand le peuple de Dieu est rassemblé, priant, louant, adorant le Seigneur. Si les dispositions individuelles de ton cœur sont là, dis Seigneur, et tu loues le Seigneur avec ta bouche, et tu es là, et à un moment donné, eh bien les mots te manquent, et le Seigneur te visite et te baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. À ce moment-là, ne ferme pas ta bouche. C'est tout à fait biblique. Je dirais que c'est presque quelque chose de naturel, parce qu'on est comme porté. Une autre façon de le recevoir, c'est lors de l'imposition des mains, Actes 8, 14. Pierre et Jean étaient arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit peut se recevoir aussi par l'imposition des mains. Alors ce n'est pas à nous de dire « moi je veux le recevoir » uniquement quand je serai dans l'assemblée, comme ça, qu'il y a plein de bruit, etc., comme ça dans mon coin. Ou moi, je veux le recevoir avec tel apôtre ou tel prophète, parce que, voilà, je veux le recevoir de la main d'Élisée, parce que c'est comme ça, c'est un label de... Non, c'est pas à nous de choisir, c'est Dieu qui décide. Simplement, il faut avoir cette disposition, cette envie, cette soif. Troisième façon dont il peut être reçu, c'est lors de l'écoute attentive de la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, le Seigneur peut... vous baptisez dans le Saint-Esprit. On le voit, acte 10, 43. Quiconque, toujours pareil, Pierre qui parle, quiconque croit en lui, donc il prêche l'évangile, croit en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, parfois, le Saint-Esprit... parce qu'on ne peut pas cadenasser le Saint-Esprit, et ça peut se produire seul dans notre voiture. Ça peut se produire tout à l'heure quand vous allez repartir. Si vous ne mettez pas France Info, et que vous êtes là, vous louez le Seigneur, vous parlez à Dieu, vous ouvrez votre cœur, le Seigneur peut vous remplir du Saint-Esprit, peut même vous renouveler, vous qui l'êtes déjà, dans le Saint-Esprit. Ça peut se faire en lisant, en méditant la parole de Dieu, ça peut se faire également notre culte personnel, en priant, en louant, en adorant le Seigneur. Le Seigneur n'est pas limité quand un cœur est disposé. Baptême dans le Saint-Esprit et parler en langue maintenant. Ah, la glossologie. Plusieurs questions se posent à ce propos, des questions auxquelles on va essayer de pouvoir apporter des réponses à partir de la parole de Dieu. D'abord, le parler en langue est-il biblique ? On peut dire qu'il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, pas une seule fois. Acte 11, 16, je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. À plusieurs reprises, combien de fois, il est parlé de ce baptême dans le Saint-Esprit. Sa pratique, est-ce qu'elle s'est arrêtée avec l'Église primitive ? On peut se poser la question. Les actes des apôtres ne sont rien d'autre finalement que les actes du Saint-Esprit. Est-ce que les Saint-Esprit auraient terminé d'agir avec les premiers disciples, les premiers témoins ? Bien sûr que non. Ils continuent d'agir tant que nous sommes sur cette terre et tant que l'Église n'a pas été enlevée. Si ça avait été le cas, pourquoi Jésus aurait fait cette annonce, cette promesse à ses disciples juste avant de monter auprès du Père ? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ceux qui auront cru. Et c'est encore pour nous aujourd'hui. Je répète, voici les miracles qui accompagneront. Donc c'est un miracle. C'est un miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Entre autres, et la liste continue, vous pourrez le relire, hein, dans Marc 16, 17, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues. Non, la promesse, elle est pour nous, elle est pour tous ceux qui croient. Maintenant, le Saint-Esprit est-il réservé seulement à quelques croyants, à quelques élus ou à tous ? On va essayer de vous lever un voile sur une contradiction. D'un côté, il y a 1 Corinthiens 12, où il est dit que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donné par l'Esprit une parole de connaissance, une parole de sagesse, à un autre la diversité des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On pourrait se dire, si le Saint-Esprit le donne ses dons, notamment, il est parlé là quand même de la diversité des langues, à chacun comme il le veut, comme le don de prophétie, le don des miracles, le don des guérisons, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas tous le don des miracles. Plus loin, il l'est dit dans verset 30, toujours de 1 Corinthiens 12, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interpellent-ils ? Effectivement, tous n'ont pas le don des miracles, tous n'ont pas le don des guérisons, tous n'interprètent pas. On va dire aussi, tous ne parlent pas en langue. Alors, on a du mal à comprendre. tout laisserait à penser que le fait, que c'est comme le, finalement, oui, c'est ça, le fait du roi. Et que donc tous les croyants ne sont pas appelés à parler en langue au même titre que tous ne sont pas appelés à être apôtres. D'un autre côté, pour contrebalancer 1 Corinthiens 12, il y a 1 Corinthiens 14, verset 5, qui dit « Je désire que vous parliez tous en langue ». Ah, je ne comprends pas. D'un côté, il dit « Tous parlent-ils en langue ?» D'un autre côté, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue ». Paul voudrait dire quelque chose que, finalement, Dieu ne veut pas. L'une des particularités de la parole de Dieu, c'est sa cohérence. Dieu est cohérent. Et ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que forcément, ce n'est pas logique. Dans la pensée de Dieu, c'est à nous de rechercher la pensée de Dieu pour arriver à la cohérence divine. On peut donc finalement distinguer, pour résumer peut-être, deux parler en langue. Il y a le parler en langue comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. De la même manière que le bébé va pousser un cri dès qu'il sort du ventre de sa maman, il s'agit du parler en langue comme signe initial de son baptême, du baptême dans le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau à usage intensif, mais personnel, pour le croyant. C'est un cadeau de Dieu. L'exemple de Paul est significatif. Lui, il en usait abondamment dans son culte personnel, dans sa vie personnelle. 1 Corinthiens 14, 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il parle même de 10 000 paroles en langue. Mais il parle dans son culte personnel. Dans son culte personnel. Donc ça, c'est le parler en langue comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis il y a le parler en langue comme don spirituel, comme charisme. Et là, selon 1 Corinthiens 12, il est distribué par le Saint-Esprit aux croyants selon sa volonté. C'est le parler en langue comme un don qui n'est plus, pour essayer de schématiser, une langue que Dieu va nous donner pour communiquer avec Dieu dans notre culte personnel, mais c'est une langue pour édifier dans l'Église, qui va servir à l'édification. Parce que tous les dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, sont donnés pour l'édification, pour construire. Elle est donc, elle n'est plus pour un usage privé, mais elle est pour un usage commun, pour l'édification du plus grand nombre. 1 Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, aura chacun la manifestation de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. De ce point de vue, tous les croyants, effectivement, n'ont pas reçu le don des langues pour l'apporter dans le rassemblement de l'Église. Parenthèse, on n'est pas possesseur des dons, ils ne nous appartiennent pas, on est seulement les utilisateurs privilégiés. On peut dire, c'est mon don. Non. Et se parler en langue dans l'Église n'est pas automatique. Mais il est ponctuel dans le cadre du rassemblement de l'Église selon que Dieu l'accorde. Ce n'est pas parce qu'on a le don des langues ou un don de prophétie que forcément on va l'accorder, on va l'exercer tous les rassemblements, lors de tous les rassemblements. Et quand il y a un parler en langue dans l'Église, comme il y en a eu, parenthèse ce matin, il est nécessaire d'attendre qu'il y ait un temps pour qu'on puisse avoir le don d'interprétation. Parce que Paul le dit, si à ce moment-là tous parlent en langue, à ce moment-là, on va passer pour des barbares. Pour ceux qui viennent, qui découvrent, ou même pour nous, si on se met simplement tous à parler en langue. Le but, c'est d'édifier quand on est ensemble. Ce n'est pas de faire notre petit truc dans notre coin. Et quand il y a un parler en langue dans l'Église, c'est une langue qui est donnée pour être interprétée, afin d'édifier. Et donc il faut prier. Soit celui qui prie en langue doit prier pour recevoir ce don d'interprétation, soit il faut aussi avoir ce temps de silence, de prier pour que on puisse être le canal pour exercer ce parler en langue. Pour que l'Église soit édifiée, c'est toujours triste s'il y a un parler en langue qui n'est pas exercé derrière, ou s'il y a juste une prière derrière. Parce qu'on fait comme fille de ce parler en langue qui est donné dans l'Église pour qu'il serve à l'édification. Et non pas le parler en langue comme signe initial du baptême du Saint-Esprit pour notre culte personnel. Et Paul dit, je préfère dire 5 mots avec mon intelligence quand je suis rassemblé pour que ça serve à édifier que 10 000 en langue, ça ne sert à rien. Maintenant, dans des temps de rassemblement particuliers, en réunion de prière où on est entre nous, on recherche la face de Dieu ou des temps où on va prier, on va jeûner, à ce moment-là, effectivement, on va se laisser conduire. Et naturellement, si on passe du temps avec le Seigneur, naturellement, on va, le parler en langue va venir naturellement. Mais on est entre nous et on prie en langue à ce moment-là. Et on peut prier en langue. 1 Corinthiens 14 nous parle, on peut même chanter en langue. Le Saint-Esprit veut nous emmener dans des expériences nouvelles et bibliques. Parce qu'on est entre nous et ça va nous porter, alléluia. Mais dans le culte du rassemblement général, si on prie en langue, on a notre parler en langue, eh bien on le fait dans notre culte personnel. On ne peut pas fermer la bouche, mais on va essayer de ne pas gêner ou de perturber la communion du frère de la sœur en face, et surtout de l'inconverti qui vient, qui va nous prendre pour des barbares. Ce n'est pas le but. Parenthèse, le parler en langue est une langue. Surtout le parler en langue comme don spirituel exercé dans l'Église. C'est une langue. Alors parfois, on a l'impression que c'est comme des onomatopées, on se dit, mais tiens, c'est comme ta, 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 on se dit, c'est surprenant. Mais vous avez des langues dans certains pays, d'Afrique ou autre, où ça ressemble à ça. Il y a combien de langues dans le monde? Et par rapport à ça, moi, j'ai deux témoignages à vous donner. Le premier, c'est le Jacques Elbaz, je ne sais pas si certains le connaissent, Jacques Elbaz, qui est juif, qui est missionnaire en Israël. Et lui, il trouve qu'il y avait une chrétienne qui lui plaisait, et donc il la voyait souvent, etc. Mais elle allait aux réunions, donc elle restait fidèle au Seigneur. Et donc lui, il se posait la question, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je vais à la réunion, à tel endroit. Donc lui, il était jaloux, il s'est dit, c'est pas possible. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Et donc il l'a suivie, donc elle s'est mise devant, et puis lui, il est arrivé un petit peu après, derrière. Il est arrivé dans une réunion. Et puis dans une réunion, donc il y avait au moment de la réunion, et il y a eu un don spirituel, un parler en langue, c'était en hébreu justement, un hébreu apparemment ancien, donné par une personne, qui a été interprété. Bon, et puis voilà. Et puis lui, aussitôt après, il a été voir la personne qui a donné le parler en langue, et il lui a posé la question, c'est une personne d'un certain âge, il lui a posé la question, mais il dit, mais vous parlez donc l'hébreu littéraire et autres? Il dit, non, absolument pas. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, vous avez parlé un hébreu littéraire absolument exact, extraordinaire. Et en plus, l'autre dame, elle a su, vous êtes plusieurs à parler hébreu, l'autre dame, elle a exactement traduit ce qui était dit. Et non, l'autre dame non plus ne savait pas, c'était un don spirituel. Il ne faut pas, à la Bible, il ne faut pas mépriser les prophéties, il ne faut pas mépriser les dons spirituels, parce que ça édifie. Même les prophéties. C'est la même chose, c'est arrivé, moi j'ai reçu un don de prophétie, dans une église, et ça ressemblait à rien du tout. Si vous voulez vous demander à quoi ça correspondait, pour des personnes qui n'étaient pas au courant, oui, mais moi ça correspondait pile poil. Vous voyez ? Parenthèse fermée. Voilà, donc on est le guide. Dans l'exercice du don spirituel, parler en langue dans l'Église, c'est le principe d'édification, comme tous les autres dons spirituels, afin d'être compris des auditeurs, des participants. Il doit être aussi interprété pour que celui qui le communique, par celui qui le communique ou par un autre. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est également, on va dire, une porte d'entrée en vue de l'exercice des autres dons spirituels. Au travers du ministère de Paul, qui était un ministère charismatique, dans Actes 13, versets 6 à 12, et je vais aller rapidement, Paul a exercé des paroles de connaissance et de sagesse. Vous le verrez, Actes 13, versets 6 à 12, qui ont été exercées d'ailleurs en dehors du cadre des réunions, ce qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit, les bénéfices ne se manifestent pas seulement quand nous sommes réunis, mais également à l'extérieur. On ne se rend pas compte que Dieu peut nous utiliser pour donner une parole de connaissance. Je me souviens, je parlais à un monsieur qui était dans le cadre de mon travail, il était un monsieur d'un certain âge, qui était chirurgien au niveau des yeux et autres. Et puis on parlait et autres. Et puis je me mets à un moment donné à lui parler du peuple d'Israël. Et j'insiste sur le peuple d'Israël lourdement. Et j'insiste lourdement. Il disait rien du tout. Alors j'ai continué à lui parler du Seigneur. Et puis il riait, il ne manifestait rien du tout. Et puis il me dit, mais vous savez pas que je suis juif? Et ce monsieur, ça l'a interpellé. Ça a été une porte d'entrée. Moi, je n'en savais rien du tout. N'en savait rien du tout. Donc c'est une porte d'entrée, le baptême du Saint-Esprit, pour exercer les dons spirituels. Paroles de connaissance, paroles de sagesse, et autres. Beaucoup d'exemples à ce propos. Il y a celui de Philippe en Samarie, où Philippe y prêcha le Christ, les foules étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles virent les miracles qu'il faisait. Démons chassés, des paralytiques, etc., guéris, des boiteux guéris. Mais effectivement, Philippe, peu de temps avant, on avait appris qu'il était aussi, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Donc à partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte. Et cet homme était diacre. Et on voit comment Dieu l'a orienté, l'a utilisé. Celui des chrétiens d'Éphèse, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Celui des chrétiens de Corinthe, vous pourrez voir que finalement, Paul le dira, il le dit, mais vous avez tous été baptisés dans un seul esprit, 1 Corinthiens 12-13. Et un peu plus haut, il leur dira, il ne vous manque aucun don. Ils avaient tous les dons. Mais à la base, ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Peut-on être baptisé dans le Saint-Esprit et ne pas parler en langue? Ah, peut-on être baptisé dans le Saint-Esprit et ne pas parler en langue? Quand un vase est plein, que se passe-t-il? Ça déborde. Est-ce que vous pouvez remplir un vase d'eau sans qu'il déborde? À moins qu'il soit percé. C'est pas possible. Acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la suite logique. Certes, les langues de feu ne se sont produites qu'une seule fois lors des actes des apôtres, mais le parler en langue dans acte 2 a bien eu lieu et c'est poursuivi. Acte 8, 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit bref, de l'argent pour pouvoir acquérir ce don-là. Mais lorsqu'il vit, ce qui veut dire que c'est quelque chose de visible, en tous les cas d'audible, il y a une marque particulière quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. Au moment où les apôtres ont prié pour les Samaritains, les croyants samaritains, le Saint-Esprit est descendu sur eux et Simon a vu. Donc c'est quelque chose de logique le parler en langue. Il en découle tout naturellement. L'intérêt du baptême dans le Saint-Esprit. Deux choses pour nous montrer son grand intérêt aux yeux de Paul. Tout d'abord, Paul désirait que tous les chrétiens de Corinthe soient baptisés. 1 Corinthiens 14:5, je désire que vous parliez tous en langue. Et c'est la volonté du Seigneur encore aujourd'hui. Non pas forcément que vous ayez tous le don des langues, là pour l'exercer dans l'Église, mais que vous parliez tous en langue, vous soyez tous baptisés dans le Saint-Esprit, et que dans votre culte personnel, vous puissiez abondamment parler en langue. S'il le souhaite, c'est que c'est possible, réalisable. Ensuite, Paul usait abondamment lui-même de se parler en langue dans son culte personnel, parce qu'il en ressentait, bien qu'il soit l'apôtre, il en ressentait la nécessité. Non seulement la nécessité, mais le goût et l'envie, parce que c'était bon. Parce que c'est bon d'avoir une communion, de parler en langue avec le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça nous élève, ça nous porte. C'est quelque chose de bon, mon frère, ma sœur. C'est quelque chose de bon. Est-ce qu'il revêt encore pour nous, et toujours pour nous, ce même intérêt? Est-ce qu'il a toujours cette priorité pour nous en tant que chrétiens? Au point que nous soyons comme cette veuve avec le juge unique, prêts à tout pour l'obtenir? Ou est-ce qu'on dit, c'est pas grave, de toute façon, il me le donne pas, tant pis. C'est comme ça, je ferai sans, et puis voilà. Non. Deux contributions, deux apports majeurs dans la vie du chrétien. Tout d'abord, il offre une connexion directe à haut débit avec la ligne d'en haut, avec Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'interférence humaine ni ténébreuse. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc c'est une connexion directe avec Dieu. Notre intelligence est stérile. On ne comprend pas, et ça fait du bien parfois que notre intelligence soit stérile. Parce qu'elle ne comprend pas bien les choses de Dieu, elle est limitée. Et dans notre culte personnel, prions abondamment en langue, parce qu'on est directement en connexion avec Dieu. C'est le langage du Saint-Esprit. C'est une prière qui va être efficace, parce qu'elle cible par rapport aux besoins. C'est le langage de Dieu, il n'y a pas de parasitage, de filtre au niveau de l'intelligence. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12:2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et chose importante, c'est que le diable ne peut même pas comprendre. Parce que quand on parle en langue, on parle directement à Dieu. 1 Corinthiens 14:14, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Par l'intelligence, je chanterai avec l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Ne pas mépriser évidemment l'intelligence que Dieu nous a donnée pour l'utiliser à bon escient. Le parler en langue, c'est un booster pour le croyant. Et ça a des répercussions directes. Dans quoi? Dans la vie de prière et d'intercession. avec une dimension de combat spirituel. Éphésiens 6, 19, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et d'intercessions. Par l'Esprit. Mais on comprend par l'Esprit, parce que c'était à ces mêmes Éphésiens, dans Acte 19, qui disaient, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il leur dit, du coup, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et d'intercessions. Dans la vie d'adorateur également, Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Bien sûr, si on n'est pas dans le Saint-Esprit, on peut adorer le Seigneur. Et notre adoration a autant de prix que n'importe quelle autre adoration. Mais le baptême dans le Saint-Esprit va nous permettre de passer plus de temps devant Dieu. Ce sera moins difficile, moins pénible, parce qu'on rentre dans une autre dimension. Il permet une édification personnelle. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est une vitamine, un fortifiant spirituel extraordinaire. C'est comme le calcium pour la croissance et les os. Sa pratique participe, contribue à la construction de notre homme intérieur ou notre femme intérieure, créée à l'image de Christ. La prière de Paul pour l'église d'Éphèse était qu'il soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Qui d'entre nous peut se passer de cette construction intérieure ? Le baptême dans le Saint-Esprit va permettre, en parlant en langue, de construire notre homme intérieur à la ressemblance de Jésus-Christ. Conclusion. Quelques conseils pour les croyants qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Quel que soit le moyen, la médiation utilisée, on l'a vu, que ce soit par l'imposition des mains ou autre, deux choses doivent être présentes dans le cœur du chrétien. La première chose, c'est la foi en Dieu, en sa parole, en sa promesse. Comme pour le salut, il faut croire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il faut croire, il faut avoir cette foi dans le cœur. Il faut ensuite avoir la confiance en Dieu, l'abandon. Il faut s'abandonner à Dieu. Il ne faut pas mettre des résistances. Il faut se laisser aller. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Ne pas craindre, car c'est biblique, c'est dans la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Et il n'y a aucun risque. Parce que le parler en langue, c'est dans mon culte personnel d'abord. Donc quel risque vous pouvez avoir ? Ce n'est pas pour étaler ou quoi que ce soit. Ça ne peut être que bon, que bénéfique, dont n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma sœur. Il faut avoir soif. Il faut avoir une soif spirituelle. Jean 7, 37, Jésus, tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si tu n'as pas soif, c'est pas... le Seigneur ne te forcera pas à boire. Si tu n'as pas soif. Mais si tu as soif, alors crie au Seigneur. Il faut aspirer aux dons les meilleurs, c'est nécessaire. Il faut cette prière individuelle qui monte du cœur. Il faut demander si on n'a pas reçu. Il faut cette compréhension spirituelle. Réaliser et comprendre la nécessité en vue du témoignage. Pourquoi être baptisé en Saint-Esprit ? Il ne faut pas rechercher, c'est important, le parler en langue en tant que tel. Mais il faut rechercher celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le parler en langue qui fait le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit simplement découle naturellement, simplement. Le parler en langue découle simplement du baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez ? Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, il ne faut pas se focaliser dessus. C'est une conséquence logique de l'abondance du cœur par la bouche. Et comment savoir que notre baptême dans le Saint-Esprit vient vraiment de Dieu et que ça ne vient pas de nous. C'est important ça. Moi j'ai eu des doutes à un moment, au début de ma conversion. Et à un moment donné, j'ai dit je ne parle plus parce que j'avais peur que ça vienne de l'homme. Comment savoir ? Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, Jean 7, de son sein. Ça nous parle, ce sein, de cette cavité. C'est une cavité, un espace vide, et creux qui ne demande qu'à être rempli. C'est dans le cœur de l'homme, les lits, dans le cœur de l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. Il y a cette dimension spirituelle qui a besoin d'être remplie. Et moi, j'ai eu la réponse parce que sans m'en rendre compte, je parlais en langue. Je voulais, avec mon intelligence, fermer la bouche. Et puis sans m'en rendre compte, je me mettais à parler en langue. Je disais, c'est pas possible. Et j'ai réalisé une chose, c'est que ça ne sortait pas de ma bouche, mais ça sortait de mes entrailles. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La bouche n'était que, vous voyez, le dernier, partie de mon corps qui laissait partir. Mais ça partait de mes entrailles. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de fabriqué, mais c'est quelque chose qui jaillit des entrailles du plus profond. Et si ça vient, bien sûr, on peut fermer la bouche. Et à ce moment-là, on ferme l'action du Saint-Esprit. Mais si ça vient, mon frère, ma sœur, ouvre ta bouche et laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de ta langue. Avec les langues qui vont te dépasser. Avec des langues qui vont te dépasser. Ne pas culpabiliser non plus. C'est pas parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit que tu n'es pas un chrétien à part entière et que tu n'es pas aimé de Dieu. Voilà, quelques conseils pour ceux qui l'ont déjà reçu, le baptême dans le Saint-Esprit. Je sais que c'est long, mais je pense que c'est important. En discutant avec quelques personnes, j'ai été surpris de la confusion qui existe par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai eu à cœur, dès que j'ai su que je prêchais ce dimanche, de développer ce thème-là. Quelques conseils pour ceux qui l'ont déjà reçu. Tout d'abord, il faut faire le point sur notre baptême dans le Saint-Esprit. Réaliser s'il est vraiment efficace, notre baptême dans le Saint-Esprit, pour la cause de Christ. S'il est épanouissant, ou au contraire, est-ce que c'est un baptême dans le Saint-Esprit qui est décevant, qui n'a pas opéré de grands changements bénéfiques dans nos vies et dans ceux qui nous entourent. Savoir qu'il ne se perd pas, si tu n'étais pas dit dans l'esprit, ça ne se perd pas. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Par contre, ça peut s'abandonner. Ça peut se négliger. Donc il faut se remettre au travail pour le rechercher de nouveau. Il faut peut-être demander pardon à Dieu de ce qu'on l'a délaissé. C'est comme les relations, hein, si on ne les entretient pas. Demandez à Romain s'il ne travaille pas, s'il ne fait du piano que... Est-ce que Romain, tu fais du piano que le dimanche ? Voilà. Si pendant un mois, il arrête de jouer, vous allez voir. Et c'est pour chacun d'entre nous. Toute proportion gardée en fonction du niveau qu'on peut avoir d'un point de vue humain. Mais si vous n'entretenez pas ce don, quels que soient les dons que vous avez, si vous ne l'entretenez pas, ça va se perdre. C'est pareil pour les choses de Dieu. Il faut les entretenir. Réalisez qu'il ne réglera pas tous nos problèmes. Il ne nous dispensera pas de travailler, de persévérer, de porter notre croix, de souffrir. C'est important, ça. Et en dernier, comme toute chose, le baptême dans le Saint-Esprit, on l'a vu, il s'entretient, il se cultive. Et vous lirez, je vous en fais grâce, Éphésiens 5, du verset 18 à 21, qui montre la nécessité de s'entretenir par différentes choses. Vous avez la parole, la prière, les cantiques, la louange, la reconnaissance, l'action de grâce, la soumission à l'ordre établi et la crainte de Christ, qui vont permettre d'entretenir ce baptême dans le Saint-Esprit.